السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est une histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans le Coran à propos d'un groupe de jeunes hommes qu'on appelle Ashabul Kahf, les gens de la caverne, qui est relaté dans la sourate éponyme, à savoir la sourate Al-Kahf, sourate de la caverne numéro 18 dans l'ordre des sourates du Coran. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de ce groupe de jeunes hommes et leur persécution religieuse et tous les détails qui sont liés à cela. Mais avant cela, pour apporter un peu de contexte, qui étaient ces jeunes hommes et quel est le début de leur histoire? Les exégètes qui font le commentaire de cette sourate mentionnent, pour la plupart d'entre eux, qu'il s'agirait d'un groupe de jeunes hommes qui ont vécu dans l'ancienne cité romaine nommée Éphèse, sous le règne de l'empereur romain Dèce. Il est dit qu'à cette époque-là, cette ville était plongée dans le paganisme, dans l'association Allah subhanahu wa ta'ala et le polythéisme, au point où l'empereur ordonnait même que les gens adorent les idoles, au point où il avait placé une grande statue à l'entrée de la ville et il ordonnait à quiconque voulait rentrer dans la ville de se prosterner devant cette statue. À cette époque-là, il y a un des disciples de Isa alayhi salam, parce que cette histoire se déroule après l'époque de Isa alayhi salam. Donc un des disciples de Isa alayhi salam qui se rend en direction de cette ville avec l'intention d'y entrer. Et lorsqu'il est informé de la condition de se prosterner devant la statue, évidemment il refuse d'associer quoi que ce soit autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il reste en dehors de la ville. En restant en dehors de la ville, il travaille dans un hammam, dans des bains publics pour gagner sa vie le temps qu'il va rester à cet endroit. Et c'est là qu'il va faire la connaissance du groupe de jeunes hommes dont on va parler, qui vont être au centre de cette histoire. Eux qui fréquentaient cet endroit vont commencer à discuter avec ce disciple de Isa alayhi salam. Ils vont commencer à s'attacher à lui et à ses enseignements. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir leur cœur à la vérité, à l'écoute des paroles de ce disciple qui va leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va leur parler du jour dernier, qui va leur parler du paradis, de l'enfer. Bien, ils vont ouvrir leur cœur à la foi et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc revenir vers sa religion et abandonner le polythéisme de leur peuple. La chose étant que, comme vous avez pu l'entendre, le peuple était plongé dans cela et surtout l'empereur imposait le polythéisme comme religion d'État. Il n'acceptait pas toute autre religion que l'adoration des idoles. Et donc, il est dit que petit à petit, la chose a commencé à se savoir et ils ont commencé à se distinguer des autres par le fait qu'eux n'adoraient pas les idoles. Certains exégètes et historiens mentionnent qu'il s'agirait en particulier d'un événement, une fête que le village avait eue, dans laquelle ils adoraient les idoles, etc. Et eux n'y avaient pas pris part. Et donc c'est comme cela que ça se serait su et que les gens auraient vu que ce groupe de jeunes hommes n'adorait pas les idoles avec eux. Et donc, en sachant cela, le roi a décidé de les pourchasser, de les persécuter. Et donc, ils ont dû s'enfuir de la ville dans laquelle ils étaient pour ne pas se faire attraper par le roi qui avait mis à leur trousse des soldats pour les attraper. En s'enfuyant de la ville, pour fuir la tyrannie du roi, ils ont trouvé une grotte dans laquelle ils sont montés se réfugier afin de se protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé le miracle dès lors qu'ils sont rentrés dans la grotte, eux, ce groupe de 7 jeunes hommes avec le chien qui les accompagnait. Dès lors qu'ils sont rentrés dans la grotte, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé un profond sommeil et il a fait que cette grotte-là soit une sécurité pour eux, de sorte à ce que les soldats qui les ont cherchés partout dans les chemins ne les ont pas trouvés. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ces hommes un sommeil d'une durée de 300 ans. Pendant 3 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur corps, a préservé leur santé. Il leur a accordé cette longévité-là afin qu'ils vivent et qu'ils traversent les âges et qu'ils dépassent 3 siècles, donc qu'ils passent 3 siècles dans cette grotte, dans ce sommeil-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque que la raison pour laquelle ils ont fui dans cette grotte-là, c'est le fait qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a raffermi leur foi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. C'est un groupe de jeunes garçons qui ont cru en leur Seigneur et nous les avons rajoutés en guidée. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que alors que ils étaient dans la grotte en plein sommeil, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala faisait qu'ils se retournent à droite et à gauche afin de ne pas nuire à leur corps, afin de ne pas risquer de nuire à leur corps par une position maintenue trop longtemps. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « wa nuqallibuhum dhat al-yamini wa dhat al-shimal ». Nous les faisons tourner à droite et à gauche sans cesse, jour après jour, jusqu'à ce que les trois siècles s'écoulent. Une fois les trois siècles passés, ils se réveillent et ils commencent à s'interroger sur combien de temps est-ce qu'on a passé ici. Eux qui ont été pris par le sommeil, ils ne se rendent pas compte de la durée qu'ils ont passée. Pour eux, c'était le sommeil d'une journée, c'était un sommeil normal. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Et donc, ils commencent à s'interroger, combien est-ce que vous avez dormi ? Ils sentent que quand même, il y a un temps qui est passé. Et ils répondent, قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Nous avons dormi une journée ou peut-être moins. Là, ce à quoi l'un d'entre eux répond, قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Votre Seigneur sait combien vous avez dormi. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Eux qui pensent toujours être sous le règne du roi tyrannique, l'un d'entre eux leur dit, maintenant, nous ressentons la faim. Vous sentez que nous avons faim. Et donc, prenez ces pièces d'argent et allez discrètement au marché, que l'un d'entre nous aille discrètement au marché pour aller nous chercher quelque nourriture et qu'il fasse attention à ne pas se faire attraper et à ne pas se faire découvrir, parce que sinon, il attisera la haine du roi et de ses soldats qui viendront nous chercher là où nous sommes. Et qui nous empêcheront de pratiquer notre religion et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, alors que cette personne-là qui avait été chargée parmi les sept du groupe, ils ont chargé une personne d'entre eux pour aller leur chercher de la nourriture, donc alors que cette personne-là s'est rendue au marché avec les pièces qu'ils avaient, eh bien, elle rentre dans le marché et elle commence à constater que les gens la regardent bizarrement, la dévisagent. Mais donc, ce jeune homme avance, et il va jusqu'au premier stand, premier marchand duquel il voudrait acheter de la nourriture. Et il lui demande de la nourriture en lui présentant les pièces d'argent qu'il avait. Là, le marchand prend les pièces, il les regarde, il les observe et il s'étonne. Parce qu'il s'agit des pièces qui ont été frappées il y a trois siècles de cela. Ce sont des pièces qui sont très anciennes. Il regarde les pièces et il s'étonne de ce que son jeune client lui a donné. Et là, il regarde son client et il voit... La raison pour laquelle le reste des gens le dévisageaient, c'est qu'il était habillé de la manière des anciens. Il était habillé comme dans l'ancien temps. C'est comme si aujourd'hui on parlait d'une personne qui s'habille comme s'habillaient les gens au XVIIIe siècle. Donc il le dévisage de cette manière-là. Il s'étonne du fait qu'il est habillé ainsi. Et alors qu'il pense que il a eu les pièces d'une manière qui n'était pas légitime, eh bien, il l'interroge, il lui dit « Mais d'où est-ce que tu as eu ces pièces-là et d'où est-ce que tu sors ?» Donc là, le marchand, il commence à être de plus en plus intrigué, voire même inquiété par la situation qu'il voit. Et c'est la raison pour laquelle il attrape le jeune homme et il lui dit « Obligatoirement, je vais t'amener vers le roi pour que tu t'expliques. Il faut que tu t'expliques d'où est-ce que tu as amené ces pièces qui sont anciennes, pourquoi est-ce que tu es dans cet état. Il faut que tu nous racontes. Est-ce que tu as volé ces pièces ? Est-ce que tu as volé ces vêtements ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te présentes à moi dans cette situation ? Et donc, le marchand, accompagné de quelques personnes qui étaient présentes et qui ont également été intriguées par la situation du jeune homme, l'amène auprès du roi de cette époque qui, comme vous pouvez le comprendre, avait changé. Ce n'était plus le roi tyrannique des époques précédentes. Cette fois-ci, c'était un roi qui était monothéiste sur la religion de Isa, alayhi salam. Et donc, ils vont le voir, ils le présentent au roi et là le roi questionne le jeune garçon et le jeune homme apeuré, surtout lorsqu'il se sent en confiance par le fait qu'il voit que le roi n'est plus le même qu'avant et qu'il voit que tout a changé également parce que lui aussi est perturbé. Lui pensait qu'il était à l'époque dans laquelle il vivait il y a trois siècles et donc il voit que tout a changé, que les gens ont changé, que le roi a changé. Il s'étonne de la situation et il informe le roi de son histoire et il lui dit qu'il pensait vivre à l'époque de tel roi qui était tyrannique, qui les a persécutés, qui les a pourchassés au point où ils se sont réfugiés dans une grotte, lui et ses compagnons, et que là, il est sorti, il n'a pas compris la réaction qu'avait eue le marchand, il n'a pas compris la situation, et il ne comprend pas ce qu'il se passe. Et là, le roi, émerveillé par le récit, il comprend qu'il y a derrière cela quelque chose. Il ordonne au jeune garçon de l'amener là où sont le groupe d'hommes avec qui il était. Et donc, il se rend auprès de la grotte, il les découvre, et il voit que ce que le jeune garçon avait dit est bien vrai. Et il constate le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'émerveille devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la raison pour laquelle il a fait apparaître l'affaire de ces jeunes garçons à ce roi et à ses sujets. C'est pour leur rappeler la réalité du jour de la résurrection, le fait que le jour de la résurrection va véritablement se passer, va véritablement venir et que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de ressusciter les corps qui sont sous la terre, comme il a été capable de préserver les corps de ces jeunes hommes dans cette grotte pendant ces 3 siècles. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ » Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts afin qu'ils, c'est-à-dire les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité et que l'heure du jour de la résurrection viendra sans aucun doute. Alors qu'ils débattaient, donc ils ont commencé à débattre à propos de la situation de ces gens-là, qu'est-ce qu'on devrait faire pour commémorer ces gens-là ? إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Certains dirent « construisez sur eux un édifice, leur seigneur les connaît le mieux » et d'autres dirent, ceux qui l'emportèrent dans la discussion, « établissez à cet endroit-là un sanctuaire ». Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cette histoire des gens de la caverne pour nous transmettre plusieurs enseignements et nous donner plusieurs leçons. Donc les leçons ou les morales de cette histoire, c'est premièrement l'attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fierté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de préserver son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala malgré les persécutions, malgré le fait qu'on soit attaqué, malgré le fait qu'on soit méprisé, malgré le fait qu'on soit pourchassé pour notre foi, on préserve cette religion et on essaye de maintenir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à devoir se réfugier dans cette caverne-là, physique comme ça a été le cas pour les gens de la caverne, ou métaphorique comme c'est le cas pour tout croyant lorsqu'il fait face à des persécutions, lorsqu'il fait face à une oppression de la part de ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui voudraient qu'il s'incline avec eux d'un grand égarement. L'histoire des gens de la caverne, elle nous rappelle le sacrifice qu'on fait pour notre religion parce qu'on est fier de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on assume ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelles qu'en soient les conséquences, parce qu'on considère que notre lien avec Allah et notre religion, c'est le bien le plus précieux que nous avons. Et c'est la richesse la plus grande que nous avons. Et donc on maintient ce lien-là et on préserve ce lien et on fait en sorte de le maintenir et de rester sur cette voie jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne notre âme et qu'on le rencontre, bi'idhnillah, dans le meilleur des états et dans la meilleure des situations. Également, parmi les morales de cette histoire, il y a le fait de s'écarter des mauvaises fréquentations, des mauvais endroits, des mauvais milieux, lorsque l'on voit que ça nuit à notre foi. On voit que ce groupe de jeunes hommes ont fini par s'écarter de leur peuple parce que leur peuple était plongé dans le polythéisme, était plongé dans le paganisme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire s'isoler forcément, mais ça veut dire mettre des distances entre nous et entre ce qui va nuire à notre foi. Et ne garder comme lien avec cela que le strict nécessaire afin que ça n'entache pas notre cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite ici à nous préserver, à préserver notre foi. Parce que la personne qui fréquente trop un milieu dans lequel il y a le mal, il y a la débauche, etc., bien son cœur va être affecté. Ça va avoir un effet négatif sur son cœur, qu'il le veuille ou non, même s'il pense être plus fort, même s'il pense pouvoir se préserver, etc., bien petit à petit, ça va commencer à avoir un effet sur son cœur et à laisser une trace. Donc c'est la raison pour laquelle on doit mettre des distances avec tout ce qui nous nuit et qui nuit à notre foi et savoir s'écarter lorsqu'il le faut de ce genre de milieux qui peuvent nous être néfastes. Et également, parmi les morales de cette histoire, il y a le fait que celui qui cherche la protection d'Allah, Allah lui accorde. Il y a le fait que celui qui cherche à être proche d'Allah, Allah lui accorde sa proximité. Il y a le fait que celui qui cherche à demander à Allah subhanahu wa ta'ala son soutien, Allah azza wa jalla le soutien et l'aide. Et donc à nous de faire le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, et comme c'est cité dans un hadith qudusi, dans un hadith divin, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Allah azza wa jalla dit: mon serviteur, s'il se rapproche de moi d'un pas, je me rapproche de lui de 10. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il me vient en marchant, je viens à lui en m'empressant. Et ça, c'est une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour montrer la proximité avec le serviteur et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue ceux qui cherchent à se rapprocher de lui en se rapprochant encore plus et en facilitant encore plus ce chemin-là vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que ce groupe de jeunes hommes, quand ils ont eu le courage de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à aller à l'encontre de la religion qu'avait imposée l'empereur et à craindre jusqu'à pour leur vie, Allah subhanahu wa ta'ala les a rapprochés de lui, leur a accordé cette sécurité dans la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé ce sommeil protecteur. Et donc ça nous montre que celui qui cherche véritablement et sincèrement la protection d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la lui accorde. C'est tout pour cet épisode. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter de toutes ces morales et accepte de nous nos modestes œuvres. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode bi'idhnillahi ta'ala. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.